Laurent Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir et bienvenue en Bretagne, à Saint-Malo, où VMDN a planté son studio à l'occasion de l'un des grands rendez-vous culturels du printemps, le festival Étonnant Voyageur, une grande fête de la littérature qui touche à sa fin. Elle rassemble jusqu'à ce lundi des auteurs et des artistes venus des quatre coins de la planète qui nous racontent le monde et qui partagent leur passion des mots, des histoires et des langues, de la rencontre avec la nature, les paysages et les gens. Deux d'entre eux seront avec nous, Paolo Cognetti, il est italien, il vit entre Milan et le Val d'Aoste et après son best-seller 8 montagnes, il publie le récit de son voyage dans l'Himalaya sans jamais atteindre le sommet, paru en français chez Stock. Mais pour commencer, Yvan Lemaine, poète breton et arpenteur du monde et des mondes, il vient de recevoir le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre, Un cri fendu entre mille, le troisième volet de sa trilogie Les continents sont des radeaux perdus, est publié aux éditions Bruno Doucet et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yvan Lemaine.
Bonjour.
Dans quelle mesure le poète est-il un étonnant voyageur ?
Oui, parce que d'abord, c'est vraiment ça, il est étonné par la vie, par tout, par l'autre. Et il se met en danger, hein, quand on est étonné. Dans, étonné, il y a tonnerre aussi. Mais enfin, c'est la condition de la poésie, d'être étonné. Quant au voyage, c'est assez simple. Hein, voyager, c'est traverser la route, aller voir son voisin.
Mais l'étonnement, arrêtons un instant sur l'étonnement, oui. Yvan Lemaine. L'étonnement chez le poète, c'est un état naturel ou ça demande une disposition d'esprit particulière ?
Alors, je n'ai pas envie de dire que le poète est différent des autres personnes. Ce serait vraiment, il y a en chacun de nous un poème potentiel. Simplement, le poète peut-être est celui qui accepte d'être sensible, de pleurer, de perdre, de gagner, etc. Qui l'accepte, quoi. Qui vit avec l'enfant qu'il était, sans l'écrabouiller pour grandir, ou donner le relais de son enfance à son enfant. Voilà.
Donc être poète, c'est un choix, s'il accepte.
Pour moi, oui. Mais quand je réponds, c'est moi qui réponds. Hein.
Bien sûr.
Je dis pas nous. Donc oui, pour moi, c'est... Alors, j'ai dit ça souvent aux enfants quand je vais dans les écoles. Vous voyez, pour écrire un poème, il faut laisser passer la lumière. On peut s'en protéger par une vitre. Mais la vitre peut casser. Si vous voulez pas qu'elle casse, mettez un mur et il n'y a plus de lumière qui passe.
Et le travail du poète, c'est...
Alors, le travail du poète, c'est d'être, enfin, encore une fois, de l'être humain aussi, puisque c'est un peu contingent tout ça, c'est d'être le plus humain possible.
Et donc c'est de casser le mur.
Ou de ne pas mettre de mur, même ne pas de construire, et de mettre une vitre, parce qu'on ne peut pas vivre en plein vent toute la journée, mais voilà. Et d'accepter qu'elle puisse se fêler, se briser, se casser, éclater, etc.
Alors le poète voyage et fait voyager les autres avec les mots, mais le poète que vous êtes est aussi un voyageur au sens premier du terme, en tout cas dans ce recueil, Un cri fendu en mille, qui est le troisième volet de votre trilogie intitulée Les continents sont des radeaux perdus. Le poète, dans ce troisième volume, une nouvelle fois, se déplace, il prend la route, il part à la rencontre du monde, il part aussi à la rencontre des gens. C'est le mouvement en lui-même ou c'est justement la rencontre de l'autre et de l'ailleurs, qui ont inspiré l'écriture des poèmes qui sont dans ce recueil-ci?
Non, c'est la rencontre de l'autre, parce que moi je suis un voyageur inquiet, hein, qui téléphonerait à sa mère si elle n'était pas morte en plein milieu de la Chine, donc c'est l'autre, quoi. Et alors, quand on dit l'expression, vous savez, c'est du chinois, ça veut dire qu'on comprend rien. Moi j'ai un ami chinois avec moi en ce moment, Chu Shai, un poète qui a écrit un livre qui s'appelle Le ciel se penche sur nous. Je l'ai connu il y a 10 ans et quand je suis allé en Chine plusieurs fois et je lui fais absolument confiance. C'est pas du chinois pour moi. Et pourtant la Chine est loin, hein. Et Chu Shai, il m'a fait connaître son papa qui était paysan et instituteur et qu'il a perdu sa mère très jeune et le papa m'a mené jusqu'à la tombe de sa femme parce que Chu Shai veut pas aller sur la tombe de sa maman dans la montagne. On a marché une heure comme ça, au pied d'une tombe qui regardait les nuages comme en Bretagne les cimetières marins regardent la mer. Et cet homme qui parle pas français ni moi chinois, on se comprenait profondément dans le fond. Il y a une langue commune à l'humanité. Et d'ailleurs, dans un de mes poèmes, je dis « va à l'étranger comme chez ton ami », c'est-à-dire avec un peu de confiance, et chez ton ami comme à l'étranger, parce que l'autre, même la personne qu'on aime le plus, est un immense mystère. C'est pour ça que sinon, il n'y aurait pas de chagrin d'amour, par exemple.
Donc la confiance, l'ouverture à l'autre, la curiosité aussi, comme qualité du poète ?
Oui, bien sûr. Quand on était petit, on disait hein, « la curiosité est un vilain défaut ». Non. Poser les questions, c'est toujours intéressant. On peut éventuellement avoir une réponse.
Donc avoir envie de savoir, avoir envie de ressentir, avoir envie de comprendre. Aussi.
Oui, bien sûr. Ben évidemment, parce que là, en plus, aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est assez terrible, il faut reconnaître. Et qui est « Les continents sont des radeaux perdus », c'est un titre que j'ai dans la tête depuis 30 ans. Je l'avais trouvé, parce qu'à l'époque, je m'intéressais à la géologie, à la tectonique des plaques, à la précarité de la Terre, même, dans l'univers, par ces cognements, ces radeaux qui se cognent, là, bon. Et aujourd'hui, je trouve que, du point de vue géopolitique, les continents sont des radeaux perdus, hein. Les alliances changent, on comprend plus grand chose, et on est sur des esquifs qui vont peut-être, finir dans le mur.
C'est-à-dire que le monde serait une sorte de flottille d'embarcation de fortune à la dérive?
Oui, ben en ce moment, je trouve que les trois quarts des chefs d'État sont très inquiétants.
Comme
pilote, je pense à Trump, je pense aux Brésiliens, je pense à
Bolsonaro.
Bolsonaro, je pense à même c'est Orban qui manipule l'Italien, enfin etc. etc. quoi. Oui, je suis inquiet, oui. Ben Trump, par exemple, c'est incroyable. Il va en Angleterre, il insulte tout le monde, il rentre chez lui. Bon, et il risque peut-être d'être réélu. C'est impressionnant. Bolsonaro, c'est un raciste. Homophobe, enfin tout ce qu'on veut. Je suis allé au Brésil, hein. Je suis allé à São Paulo, j'ai lu des poèmes là-bas. En plus, quand on va dans un pays, une fois ou deux, quand on en parle après, on est touché, quoi. Voilà.
Mais c'est...
On est touché par ce pays et on peut pas dire... c'est plus un ennemi, c'est un petit frère, un grand frère, enfin, etc.
Mais vous faites une différence entre les citoyens de ces pays-là et leurs dirigeants. Les chefs d'État, parce que ces dirigeants, ils ont été élus, élus démocratiquement.
Absolument.
Donc est-ce que c'est pas un problème humain plus qu'un problème d'élite politique?
Quand je pense à Trump, je pense pas à élite, mais bon. Mais oui, ils ont été élus démocratiquement, mais Hitler aussi, avec des grandes manipulations quand même, hein, des masses, de la langue, etc. Hein, bon. Mussolini aussi. J'ai pas jusqu'à dire que Trump c'est ça, hein, quand même, faut pas exagérer. Mais effectivement, ils ont été élus. Donc c'est pas en montrant du doigt un dirigeant qu'on résout la solution. Bien sûr, c'est une question à se poser en chacun de nous. Hein, c'est pas parce que moi je suis assez vieux pour me dire l'ennemi n'est pas de l'autre côté. C'est en nous qu'il y a des incompréhensions. Il y a en moi une personne parfois que je n'aime pas. Et j'essaye de la comprendre, j'essaye de la maîtriser. J'essaye de, quand je ressens de la haine ou de la jalousie, par exemple, je me dis mais si je suis jaloux de telle personne, est-ce que je voudrais être elle? Mais totalement elle, avoir son travail, sa vie, la femme qu'il a, etc. Et puis d'un coup, je me dis non, j'ai pas envie, par exemple, de vivre où il vit. Et donc ma jalousie se calme à ce moment-là.
Donc l'altérité est aussi l'un des ferments de la poésie.
Ah oui, par la question que l'autre pose, par le mystère qu'il est ou qu'elle est, quoi. Bien sûr, oui.
Alors le recueil commence à Helsinki, en Finlande, il se termine en Bretagne, le lecteur passe par l'Europe, mais aussi par l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, souvent. D'ailleurs, Yvan Lemaine, dans des endroits qui portent les stigmates de crises politiques ou de catastrophes du XXe siècle, Gaza, le Mont Liban, la Bosnie, le Monténégro, l'Algérie, mais aussi la Roumanie. Nous sommes page 43 de votre livre.
Dans le train qui va de Cluj-Napoca à Timișoara, les gens se parlent dans tous les sens. J'entends dans leurs mots des échos de latin. Nous venons de la même langue. J'ai passé la nuit sous le plafond d'une chambre plutôt fraîche. Dans la même rue vit une vieille dame qui vornéa. Je me souviens d'elle, tenace, tenant tête à la police de Ceausescu. Je l'ai aperçue hier soir, ombre derrière la fenêtre de la cuisine, ombre lumineuse comme une icône. Je l'ai saluée en silence. J'étais fier d'être pour un temps l'habitant de sa rue. Les montagnes de Cluj s'estompent, le ciel est encore sombre et sur la plaine des troupeaux butent contre les lambeaux de nuit. Soudain, au milieu de nulle part, le train s'arrête. Grève surprise et générale dont seules les brebis témoigneront. Je regarde les visages de mes voisins, aucune inquiétude, aucune agressivité échangée entre le contrôleur et les passagers. Au contraire, les gens s'installent plus profondément sur leurs banquettes. Je me replonge dans les chroniques de Bob Dylan. Le chanteur n'a pas son pareil pour raconter un tombé de neige sur les façades de New York. On voudrait s'enfouir dans son livre, le silence y est fort. Il se répand jusqu'au dernier wagon de ce train perdu aux confins de l'Europe. Les paysages n'ont pas changé depuis la révolution de Noël 1989. Les gens si, les villes aussi. Avant, il y avait si peu sur les étalages, mais tout le monde y avait droit. Aujourd'hui, il y a tout, mais peu peuvent se l'offrir, disent les gens de peu. Le train repart. La crève a duré 2 heures, entre-temps le soleil s'est levé, et je découvre que ce que je prenais pour une meule qui tremblait sur la plaine est un berger recouvert de paille qui suit son troupeau, depuis des siècles et des siècles malgré les révolutions.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Yvan Le Maine, vous êtes un poète, mais quand on lit ce texte, quand on lit les autres textes de ce recueil, Un cri fendu en mille, paru, je le répète, chez Bruno Doucet, on a l'impression que vous êtes non seulement poète, mais que vous êtes aussi un journaliste, un chroniqueur du temps et de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que votre poésie, c'est une forme de poésie reportage?
Alors, c'est moi-même qui un jour ai employé ce mot d'un travail que j'ai fait dans le quartier de Maurepas à Rennes, un quartier dit difficile, que c'était un poème reportage, voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je suis depuis petit passionné par l'histoire et la géographie. J'étais très bon en histoire à l'école primaire. J'ai pas été en fac très longtemps, mais le peu d'études que j'ai faites, c'est des études d'histoire et de géographie. Pourquoi? Alors l'histoire, c'est un peu une histoire de cow-boy aussi et d'indien, donc avec qui finit toujours plus ou moins mal, avec de temps en temps des espérances, et à nouveau la vague retombe. Bon, et la géographie, c'est où ça se déroule, quoi. Hein, bon, voilà. Puis c'est la poésie m'a permis d'apprendre à lire le paysage, d'ailleurs. Et donc quand je vais dans un pays, effectivement, j'achète un tas de livres sur le Monténégro, sur la Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, mais je remonte aux Daces, hein, quand je pense aux Roumains, etc. Donc au Brésil, je remonte au Portugais. Bon. Et puis du coup, c'est comme il était une fois l'humanité, quoi. Et donc je suis effectivement, moi je lis la presse en plus beaucoup, hein, je lis la presse. J'aime le silence de la lecture de la presse, et je lis la presse, oui, toutes sortes de journaux.
Mais donc cette réalité, hein, qui baigne effectivement l'ensemble de vos poèmes et de votre œuvre, Yvan Le Maine, cette réalité, elle est poétique.
Oui, malgré tout. Parce que dire que le poème est totalement absent du monde, c'est-à-dire la verticale, disons, hein, ce serait terrible, hein, franchement.
Mais c'est le poète qui rend la réalité poétique, ou elle l'est, il suffit juste de la regarder pour s'en rendre compte?
Oui, c'est ça. Il faut la regarder pour s'en rendre compte. Alors en ce moment, peut-être un peu moins que d'habitude, je veux bien le dire, mais oui, bien sûr, oui, les êtres, enfin moi j'ai, quand mon père est mort quand j'étais petit, j'avais 12 ans, et sur sa tombe, devant le trou, et la mort, c'est pas poétique quand même, hein. Franchement, même si c'est par la mort qu'on peut évidemment trouver de l'immortalité ou de l'éternité dans la vie avant, et puis qu'on crée des espérances magnifiques aussi, hein. C'est vrai, le monde a commencé économiquement, mais surtout poétiquement, hein, par les grands textes, Gilgamesh, la Bible, etc. Bon, quand j'étais devant au pied de la fosse où on enterrait mon père, puis je l'avais veillé pendant 3-4 jours, il était froid, enfin bref, c'était très cruel et dur, c'était du caillou un peu. Et ben j'ai regardé en haut, au ciel, sinon je tombais dans le trou. Et donc là, le poème, c'est la tension entre le trou dans lequel on a déposé mon père et ma mère, d'ailleurs, quelques années après, enfin beaucoup d'années après d'ailleurs. Mais en regardant le ciel, j'ai vu peut-être un nuage bordé d'or dans du ciel bleu, quoi. C'était en septembre, je me souviens. Oui, les ciels de septembre sont assez, c'est des bleus assez doux. Oui. Donc il y avait ce bleu-là dans le ciel, c'est ça qui m'a sauvé.
Et vous disiez à l'instant, Yvan Le Maine, que vous aviez appris à regarder le paysage, oui, à travers la poésie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment regarder le paysage? Donnez-nous un petit conseil pratique.
Par exemple, quand ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer du pancréas il y a 11 ans, et donc on sait que ça va vite. Et donc, peu de temps avant sa mort, j'ai dit, maman, tu aimerais aller où? Elle m'aurait dit, n'importe où en Chine, on aurait trouvé les sous pour y aller. Elle dit, non, à Port-Blanc, c'est à 10 km, hein, au bord de la mer. En Bretagne, on a de la chance parce qu'il y a des paysages, voilà. Et elle était assise sur un banc, j'étais près d'elle, et je la regardais, on s'est pas dit un mot, et je me dis, c'est la dernière fois qu'elle voit la beauté absolue du monde, parce qu'on était dans un endroit réellement, la mer se courbait au loin et finissait par des îles, quoi, hein, et puis il y avait quelques oiseaux qui volaient. Alors je vais dire un mot qui est un peu exagéré, mais on pourrait dire que c'était paradisiaque. On peut imaginer que le premier homme, la première femme se sont rencontrés là, à l'horizon de l'horizon. Et je me suis dit, mais elle regarde ça, elle frappe à l'horizon pour ouvrir à la mer la porte du ciel. Elle se prépare pour être la première le dernier jour. Et quand on voit, mais on s'est pas dit un mot après, il dit bon ben on rentre, c'est tout. Je lui ai même pas dit si elle était contente. Et je me suis dit mais elle a vu la beauté du monde. Et le dernier voyage qu'elle a fait, c'est dans son jardin, autour des fleurs qu'elle avait plantées. Et donc on a regardé la corolle d'une fleur, mais comme si c'était la première fleur, quoi, puisque c'était la dernière.
La beauté du monde peut donc être dans son jardin.
Ah ben oui, bien sûr, ou dans les yeux de l'autre. Enfin, la beauté du monde, elle peut être absente même de la beauté du monde, dite beauté du monde, parce que des fois aussi les grands paysages peuvent nous tuer. Si on est malheureux devant un très beau paysage, des fois on se sent petit, hein. Vivre au bord de la mer, par exemple, c'est parfois être dépassé par elle, hein. En fait, c'est une relation permanente. On n'est pas exclu du paysage, on est dans le paysage. Il y a un poète turc qui s'appelle Nazım Hikmet qui a écrit un livre dont le titre est magnifique, c'est « Paysages humains de mon pays ». Lui, il voit les visages comme des paysages et les paysages comme des visages.
Et vous citez énormément de poètes dans vos propres poèmes à vous. Vous avez besoin de vous nourrir des livres, de la poésie des autres. On parlait des rencontres tout à l'heure, mais il n'y a pas seulement les rencontres physiques, les rencontres humaines, il y a aussi la rencontre avec les mots des autres.
Ah oui, c'est absolument nécessaire. Moi, je suis à l'école primaire toute ma vie. L'école primaire, c'est intéressant parce que c'est l'école où on pense, c'est la même personne qui enseigne tout, donc on se dit, tiens, le monde a l'air cohérent. Et on découvre en sixième que c'est pas vrai. Il y a un prof qui est là, un autre qui est là, puis on n'arrête pas d'ouvrir et de fermer les portes. Et donc, j'aime bien cette idée de... Et donc, pour moi, Alexis Kivi, le premier poète finlandais dont je parle, c'est lui qui a créé le roman finlandais, hein, qui s'appelle Les Sept Frères, en langue finnoise. C'est à l'époque où la Suède dominait la Finlande. Et il était très pauvre, il est mort à 37 ans. Et je suis allé dans sa maison. Sa chambre était tellement petite qu'il fallait rentrer comme sur une couchette de train. Ben quand je me suis installé j'ai demandé à être dans sa maison, je suis allé dedans, je me suis dit, mais voilà ce qu'il a... J'ai lu encore plus ses livres, quoi. Voilà, je suis allé dans la maison de Balzac, les deux maisons, celle de Passy et celle de Saché, où il y a le lit, là où il s'allongeait pas complètement pour pouvoir travailler à tout moment, quoi. Et donc, du coup, ça rend Balzac, moi j'adore Balzac, mais ça le rend, c'est comme un voisin, quoi. Enfin, la littérature, c'est pas en dehors de nos vies, hein. Et moi, j'ai beaucoup de livres chez moi, hein, beaucoup trop même. D'ailleurs, ils sont en train de m'envahir, mais comme dit Michel Lebris dans son livre Pour l'amour des livres, là, si c'est pareil, il veut devenir un livre quasiment à la fin. Mais les livres, quand on ouvre un livre, on ouvre une personne.
Et quand vous relisez un livre, vous redécouvrez cette personne en permanence.
La poésie surtout. Hein. La poésie, l'avantage inouï de la poésie, c'est quand même qu'on peut la lire et la relire à l'infini. Parce que théoriquement, le poète a usé son poème avant qu'il ne s'use, quoi. Comme une voiture de Grand Prix, hein, qu'on essaierait pour voir si elle va pas casser dans le premier virage. Eh bien, un poème, on l'use, on l'use, on l'use, on enlève tous les mots qui sont inutiles, et on se dit que donc, il risque pas d'être usé à la 15e lecture.
Mais alors, quelle est justement la relation qui peut s'établir entre le poète que vous êtes et vos lecteurs? Parce que chaque lecteur, en fonction de son parcours personnel, en fonction de sa sensibilité, en fonction peut-être aussi des circonstances dans lesquelles il lit le texte, aura une vision, des réactions complètement différentes. C'est ça le principe de la rencontre humaine, d'ailleurs, de toute façon. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de vos lecteurs?
Qu'ils soient sympas avec moi. Voilà, comme j'attends ça des gens. Mais pour revenir aux lecteurs, je ne vais pas parler de moi, là. Je vais parler d'un poète que j'aime beaucoup, Guy Hvic. Guy Hvic a écrit en 1937 un petit poème qui dit « Assiette en faïence usée, dont s'en va le blanc. Vous êtes venu neuve chez nous, nous avons beaucoup appris pendant ce temps. » Bon. J'ai discuté avec sa femme de cette assiette. Elle louait des assiettes en porcelaine assez chic. Moi, je vois des vieilles assiettes un peu ébréchées. Et il y a le poireau que je voulais pas manger quand j'étais petit. Je le poussais au bord de l'assiette et ça usait. Ça usait. Mon père appelait la soupe au poireau, la soupe au canard, en pensant qu'en l'appelant comme ça, on la mangerait plus facilement. Donc il passait par la poésie pour nous faire avaler la soupe. Et ben, cette assiette, chacun a son assiette. C'est pas la même assiette. Et dans mes poèmes, j'imagine que c'est pareil. Que les gens lisent mes poèmes, mais ça m'est égal, le poème appartient autant au lecteur qu'à l'écrivain. Parce que finalement, le poète, c'est... moi quand je lis un poème de Shakespeare, Shakespeare, c'est trop tard, il n'est pas là pour me dire tu t'es trompé, tu as mal interprété. Donc le poème est à moi.
C'est intéressant l'exemple que vous venez de prendre à propos de la soupe et du poireau, là, parce que ça signifie que la poésie peut aussi être utile. Voire utilitaire, la poésie peut servir à quelque chose.
Ben, malheureusement d'ailleurs parfois il y a eu certains poètes en Albanie par exemple, déjà aimaient la poésie, ils surveillaient de près Kadare. Mao Tse-Tung a écrit des poèmes aussi. Il faut se méfier des dictateurs qui aiment la poésie et qui en écrivent. pour les poètes. C'est pas Staline adorait la poésie. Hein. Il y a un livre sur Mandelstam écrit par comment il s'appelle Robert Little, ouais, qui l'Hirondelle avant l'orage, c'est magnifique, où il raconte comment les poètes russes ont énormément souffert. Parce que Staline aimait vraiment la poésie et donc il les a fait vraiment souffrir. Quoi. Donc oui, alors maintenant, non. Reparlons d'une utilité plus simple, comme le pain, comme l'assiette pour recueillir la soupe. Oui, j'ai aimé trois poètes quand j'étais jeune, Violamont, Malrieux, Jean Malrieux, Xavier Gras et Guy Gvic, et Jean avait écrit un vers, Le bruit court qu'on peut être heureux. Je l'ai lu à 20 ans, moi j'étais très militant, donc je mettais à bas les patrons, à bas ceci, cela. Et sur les murs de Rennes, je mettais en dessous Le bruit court qu'on peut être heureux. Ça adoucissait à bas les... Voilà. Et j'ai fait 2000 bornes pour aller voir l'homme qui avait écrit Le bruit court qu'on peut être heureux, et je suis tombé sur un homme qui méritait son vers. Son poème, quoi. Et c'est génial quand on a 20 ans. Il avait 60, lui. C'est magnifique. Surtout quand on est orphelin, en plus, c'est un cadeau de la vie, quoi.
Hollen so düsi, adres sind die Karre, adres sind die Karre. Il y a ma hindrie, et al vendor gude, quen, il y a ma hindrie, et al vendor gude, quen. Amma are niña,
Quelques notes de Roudenou, le tout dernier disque du chanteur breton Yann Fanch-Kemener, une grande figure du chant breton, de la tradition orale bretonne, décédée en mars dernier. Roudenou, je parle sous votre contrôle, Yvan Lemen, ça veut dire les traces, les voix, hein, en breton. Et ce double album est précisément un hommage au poète breton. Vous le connaissiez très très bien, hein, Yvan Lemen. Hommage lui a été rendu d'ailleurs à Saint-Malo ce lundi matin. Quel héritage laisse-t-il Yann Fanch-Kemener?
Je suis allé à son enterrement, hein, il y avait 1500 personnes, des enfants, des vieux, des ouvriers, des paysans, des chanteurs, tous les chanteurs que les Bretons qu'on connaît en Bretagne, ils étaient tous là. Eh bien, l'héritage, c'est d'abord lui-même a hérité, puisqu'il est né dans une famille très très pauvre, hein, très très pauvre, vraiment. Alors là, son père était ouvrier agricole, qui savait pas trop se défendre, et sa maman était lavandière, elle avait les draps, hein, avec, voilà, dans les lavoirs. Et sauf que Yann Fanch, il a une voix magnifique, hein, et c'est la voix de sa maman. Et donc en fait, il a eu comme héritage, pas de sous ni rien du tout, mais la voix de sa mère. Déjà, lui, il a eu cet héritage-là. Et la voix de sa mère, ce sont des chansons. Moi, je suis allé sur sa tombe dimanche dernier, j'ai rencontré la fille d'un homme qui lui a appris à chanter, qui lui a appris des chants, pardon. Et cet homme était ouvrier agricole aussi. À l'époque, ils allaient dans les balles, dans les festounos, en breton, on appelle ça. Et ils étaient payés pour chanter. Ils avaient un sandwich et un paquet de tabac. Ça a changé après, hein, mais donc lui, il appartient, il est à la fois ce que j'aime dans ce qu'il fait. Et moi, je sens ça pour moi aussi. Je me sens moi dans une tradition. Et en même temps, j'essaye d'apporter ma parole à moi, bien sûr, donc d'intervenir dans cette affaire. Mais je me sens aussi l'héritier de tous les poètes que j'aime, qui remontent à Gilgamesh et qui vont, je sais pas où, là, les enfants qui sont pas encore nés. Yann Fanch, c'est pareil. En plus, il a sauvé, comme la langue bretonne, elle a été quand même très menacée. Bon, elle est pas perdue, loin de là. Hein. Et ses chants, en plus, racontent des choses qu'on racontait. Et il a écrit un livre où il a recueilli des chants qui datent de 1837, c'est-à-dire l'année quasiment où a été publié le Barzaz Breit, La ville marquée, qui, lui, remonte au 5e, 6e siècle. Donc, souvent, les choses, avant qu'elles ne se perdent, sont sauvées. C'est ça un peu le génie et la chance de l'humanité. Quoi.
Donc l'importance de la transition, qui évidemment est chevillée aussi à votre œuvre et à votre cœur, Yvan Lemen. Vous-même, vous écrivez en langue française et en langue bretonne?
Non, je ne connais pas le breton.
Vous ne connaissez pas le breton?
Non, parce que mon père le parlait, mais il est mort jeune. Et ma maman est née à Paris, comme beaucoup de Bretons. Et donc, elle est arrivée en France, qu'est-ce que je raconte? En Bretagne, dans un village où on parlait en plus un argot breton. Alors, c'était assez impressionnant. qu'on appelait la langue des nomades. C'était beaucoup de chiffonniers qui avaient une langue à eux, en breton, et elle disait qu'elle m'avait dit un jour que c'est comme s'il était en Ukraine. Donc, non, la langue bretonne, pour moi, c'est un grand mystère. Moi, je suis né dans un village où tous les panneaux sont en breton, mais j'ai été traduit en breton. Alors, je connais un peu, quand même, tout ce qui touche à la nature, tout ça, les mots. Je peux avoir l'accent très... Je l'ai sûrement, d'ailleurs. Mais non, je ne le parle pas. Non, j'écris en français. Mais j'aime le français. J'aime la voyelle. J'aime Verlaine. Oh, triste, triste était mon âme à cause d'une femme, etc. Et ça convient. Cette voyelle, le muet, non muet, d'ailleurs, me plaît. Voilà. Je suis breton. Donc, c'est une langue inconnue, mais pas étrangère.
Vous m'en direz des nouvelles. Est à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur.
VMDN avec Yvon Lemaine à l'occasion du festival Étonnant Voyageur ici à Saint-Malo en Bretagne. Yvon Lemaine, un cri fendu en mille, le dernier tome des continents sont des radeaux perdus, paru aux éditions Bruno Doucet. À propos de radeaux perdus, ces bateaux de fortune, certains ont aussi emmené des migrants qui ont survécu au tumulte de la Méditerranée. Certains ont été accueillis en Bretagne. D'ailleurs, hein, on les croise dans cet autre livre que vous avez publié aux éditions Dialogue, Yvon Lemaine, aux marches de Bretagne, avec des illustrations d'Emmanuel Lepage. Là aussi, une nouvelle fois, l'actualité est vraiment au cœur de votre poésie, puisque vous parlez du bio, d'écologie, mais aussi le passé. Hein. Vous racontez les tranches de vie du pays Coglet, hein, cette zone rurale qui se trouve dans le nord-est de la Bretagne. C'est un monde dont on parle peu, voire très peu, et même presque pas. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi les rumeurs de Babel, hein, qui parlaient justement de ce quartier populaire de Rennes qui s'appelle le quartier Maurepas. Est-ce que vous êtes un écrivain? Est-ce que vous êtes un poète des périphéries, Yvon Lemaine?
Moi, je suis né dans un petit hameau où il y avait quatre maisons. Et la première, alors, on allait à l'école à pied, au catéchisme à pied, à la messe à pied. Ça faisait 5 km aller-retour, en longeant et en descendant la rivière, l'estuaire. Et donc, quand on venait à l'école, c'était la Roche des Riens, donc s'il y avait 1000 habitants, on disait la Bronx qui arrive. Bon, voilà.
Ah oui.
Et donc, je suis périphérique totalement, je suis fondamentalement périphérique. Mais c'est intéressant d'ailleurs. Alors, ça veut pas dire que moi je vais à Paris, j'ai pas de problème quand je vais à Paris, mais je rentre après chez moi. Parce qu'il y a une phrase de Guy Vic, pour revenir à lui, il dit: si je ne suis pas au centre, qui est au centre? Mais il veut dire par là que vaut mieux être au centre de sa vie pour pas être détruit par, voilà. Mais une fois qu'on s'est à peu près trouvé, et moi quand je suis dans le poème des autres ou le mien, peu importe, je me trouve là. Par ailleurs, je suis parfois un peu perdu, mais pas là. Voilà. Parce que c'est le poème qui passe à travers moi. Là, je me sens vraiment fort, un peu comme un souffle qui tiendrait tout, quoi, hein, et qui formerait un verre, là, vous savez, quand le souffleur de verre. Voilà. Mais oui, je suis périphérique, profondément périphérique. J'ai une tendresse quand je suis allé à Maurepas. Bon, je suis allé dans le Coglet, j'ai rencontré des gens qui bossent dans les abattoirs, des paysans, il y en a plus beaucoup, des ouvriers du granit. Oui, il me touche, oui, parce que c'est ma famille, hein, tout simplement, quoi. Je me sens profondément. Il faut faire attention, parce que, d'ailleurs, on a vu le résultat quand on les écoute pas, ce que ça donne, hein, donc, vaut mieux les écouter, hein, franchement.
Aux Gilets jaunes, oui, notamment.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
Ou au Baudet Rouge aussi, puisqu'on est en
Bretagne. Oui, oui, oui. Alors après, oui, c'est d'ailleurs des trouvailles, hein, que d'appeler, tout d'un coup, je sais pas quel est le premier qui a trouvé ce mot-là. C'est pour qu'on voit, le gilet jaune ou le bonnet rouge. Mais avant que tout se passe mal, il faut entendre, au moins, il faut écouter, tendre l'oreille. C'est quand même la moindre des choses. Bon. Et le Coglet, c'est au bord de l'A80, l'autoroute qui va vers Caen et plus loin. Et souvent, on passe parce qu'on va vite et on n'entend pas. Et pourtant, la vie est partout, dans le fond, hein. La périphérie, ça n'existe pas, puisque si on y vit, on est au centre. La périphérie, elle est, pour ces gens-là, peut-être qu'elle peut être à Paris, et la périphérie, hein, c'est... Mais moi, je suis périphérique, oui. Au bord, j'ai dit d'ailleurs que ma maison, je l'ai construite au bord du monde.
Depuis longtemps, nos langues nous séparent, malgré les montagnes, les plaines, les rivières que nous avons grimpées, traversées, longées. Depuis longtemps, nos dieux nous séparent, malgré le désert, le ciel, la mer que nous avons priées. Le pommier est-il l'étranger du pin, l'oranger celui du chêne? Le reflet du peuplier dans la rivière de Castille est-il plus clair que celui du bouleau dans un lac de Finlande? La neige qui tombe à Odensa, au Danemark, le jour de Noël, est-elle plus blanche que celle qui tombe des rêves du Touareg à Bamako le jour de l'Aïd? La lune que je contemple ce soir dans l'hémisphère nord est-elle plus ronde que celle qu'on ne voit pas ce soir dans l'hémisphère sud? Depuis longtemps, nos langues nous attirent grâce au pain, au chant que nous partageons autour de la même table. Et la main qui m'ouvre le chemin dans ce pays où je me perds mais plus proche que celle qui menace dans mon pays où l'on se perd, dès que l'autre côté de la route qui relie nos villages, nos quartiers, dans notre ville, de notre pays, ils font de l'inconnu un étranger.
Yvon Le Maine, pour vous, la langue est un matériau, un outil, un ouvrage, ou les trois à la fois?
Tout ça plus un mystère.
Et avez-vous réussi à le sonder, ce mystère?
Non. Parce que, par exemple, j'ai autant de mal que n'importe qui à dire les sentiments les plus profonds que je ressens pour les gens que j'aime. Des fois, en breton, on dit ça en rigolant, que parler le breton, comme les bretons sont assez silencieux. Enfin, oui et non, oui, parce qu'ils passent par les chanteurs.
Cliché,
non, non, si, si, parce que Guy Vic, c'est de la poésie. Guy Vic est silencieuse, par exemple. On dit, ça va? Voilà. Bon, ça, je parle pas vraiment. Bon. Non, 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 je, parce que plus on avance dans le poème, plus on a, plus le mystère s'éclaircit un peu. Plus l'autre mystère s'ouvre, on passe de mystère en mystère, et le dernier, c'est quand même la mort, quoi. Ma mère, moi, elle est morte dans mes bras, hein, ce qui est un grand privilège, vraiment. Elle avait 82 ans, donc c'est pas une injustice. Et je dis dans un poème, je dis, elle se prépare donc pour être la première le dernier jour. J'avais l'impression qu'elle rentrait en sixième pour dire, tiens, on va voir. Elle avait pas peur, franchement. Elle avait beaucoup souffert dans sa vie. Et elle avait pas peur. Et moi, j'ai été bluffé par son, c'était une femme qui pouvait être assez dure. Mais les 9 derniers mois de sa vie, elle a été magnifique. Et, j'ai reçu une leçon dont j'ai pas fini de profiter, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la question. Donc le mystère, le mystère. Et plus on avance, plus on se dit que le moindre mot, si on y pense vraiment, hein, peut déclencher des vies et encore des vies, quoi. Donc je saurais pas dire, prenons le mot le plus simple, le mot aimer, le verbe aimer, c'est...
C'est le mot le plus simple, le mot aimer?
Non,
certains diraient que c'est peut-être le plus compliqué.
Ben voilà, ben vous avez répondu, c'est les deux en même temps. Quand on peut le dire vraiment, c'est quel soulagement. Et en même temps, des fois, c'est la première marche de je sais pas quel immense escalier.
Comment viennent-ils sous votre plume les mots, Yvon Le Maine?
Alors les poèmes viennent, je dis ça des fois aux enfants, pas toujours, hein. Il y a plusieurs types de poèmes. Il y a des poèmes qui viennent de l'extérieur, d'autres qui... Il y a des poèmes par exemple qui sont des souffrances qu'on trimballe et il faut absolument les liquider, quoi. C'est souvent à cause de la mort de quelqu'un ou un chagrin d'amour. Bon, alors on écrit la nuit plutôt, enfin voilà. Et puis il y a des poèmes du dehors. Et il y a un dialogue entre les deux. Les poèmes du dehors soignent des poèmes du dedans. Je vais vous dire un poème du dehors. Un jour, je mettais le linge à sécher avec ma mère. On le pliait, le drap, là, chacun tire un bout, et puis paf, je prends le drap dans le nez. Un drap qui avait séché sur une prairie, hein, pas sur un radiateur chauffé au fioul. Et il sentait les fleurs, quoi. Et un poème m'arrive, mais vraiment, hein, même plié dans l'armoire, le ciel sent bon. Et ma mère me dit, je lui dis, tiens, j'ai écrit, j'ai trouvé ça, elle me dit, oh, pff, tu t'es pas foulé. J'ai dit, maman, je recommence, parce qu'il faut lire 3 fois les poèmes courts, même plié dans l'armoire, le ciel sent bon. Alors j'avoue qu'il, puis au troisième, elle a quand même, peut-être pour me faire plaisir, ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est un poème qui est venu du coup du drap, sur le nez.
Vous venez de recevoir, Yvon Le Maine, le prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de votre carrière. Qu'est-ce que ça change, le Goncourt?
Ah ouais, écoutez, je viens de l'avoir, hein, donc c'est bouleversant, hein. Franchement, c'est une récompense au sens... Et c'est une reconnaissance aussi. Alors ça change rien en profondeur de ma vie, évidemment, hein. C'est trop tard, disons. Mais ça change à l'endroit où je suis plus visible, disons, sur même dans d'autres pays d'ailleurs, hein, puisque j'ai eu des échos assez incroyables. Et après, donc les gens après, mes poèmes sont pas meilleurs pour autant. Après, on les voit, disons. Après, chacun fera ce qu'il veut. Est-ce qu'il ouvrira les livres ou pas, quoi. Et ça fait du bien. Enfin, je sais, vraiment du bien parce que c'est venu, je pense, très sincèrement de leur part, puisque j'ai rencontré les membres de l'académie et j'étais très ému. Enfin, ça fait du bien.
Votre tout premier livre s'appelait Vie.
Oui.
La poésie, c'est votre vie, Yvon Le Maine?
Ah oui. J'ai commencé à écrire à 18 ans, comme tout le monde. J'étais militant, hein, donc il y avait une impasse dans la politique, chagrin d'amour, enfin, mais la vie, quoi, d'un jeune homme vivant. Et le titre, Vie, voilà, c'est un mystère, hein, c'est Vie. Et je pourrais dire, j'ai écrit 50 bouquins ou un peu plus, je continue à dire Vie. par rapport à, je mets en même temps mort, hein, c'est une dialectique permanente, et donc j'ai commencé à dire des poèmes, j'avais 19 ans, devant des ouvriers en grève, qui étaient en fait des gens de ma famille dans le fond, et j'ai senti que ces gens-là m'écoutaient, et j'ai donc arrêté tout ce que je faisais pour faire que ça, vivre de ma poésie au sens spirituel, moral, physique et économique. Donc j'ai mis pas mal d'années avant que ça se passe correctement, disons, voilà. Oui, c'est ma vie. Mais pas seulement ma poésie, encore une fois. Hein. À Saint-Malo, là, je reçois des poètes et je fais passer de leurs poèmes. Hein.
Merci beaucoup, Yvan Lemaine. La trilogie Les continents sont des radeaux perdus est disponible, je rappelle, aux éditions Bruno Doucet.
Vous m'en direz des nouvelles est à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageur.
Bonjour Paolo Cognetti.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. On vous connaît pour Les Huit Montagnes, best-seller en Italie, prix Strega, l'équivalent italien du Goncourt, qui est traduit dans une trentaine de pays, un récit de voyage initiatique et d'amitié entre deux garçons du même âge, mais que tout sépare, un livre qui a aussi reçu en France le prix Médicis étranger 2017. Et vous voici de retour avec ces autres livres, Sans jamais atteindre le sommet, récit de voyage dans l'Himalaya, traduit d'italien par Anita Rochdi. Le livre est paru en France aux éditions Stock. Et vous êtes vraiment un de ces étonnants voyageurs que l'on peut rencontrer ici à Saint-Malo. Vous le notez vous-même d'ailleurs dans ce livre, lorsque vous rencontrez une femme qui, écrivez-vous, n'ose pas vous poser la question de vive voix. Pourquoi nous autres occidentaux venons dans ces endroits reculés pour vivre à la dure, dormir à même le sol, souffrir du froid et nous couvrir de poussière? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites ça, Paolo Cognetti?
C'est pas facile, c'était une question sans réponse. Je crois qu'on cherche quelque simplicité en montagne et aussi dans la marche, de réduire notre vie si compliquée, notre vie occidentale si compliquée, pleine de choses, pleine de relations compliquées, à quelques formes plus simples.
Simplicité et authenticité, hein, c'est le mot que vous utilisez pour expliquer cette recherche de la dernière enclave de l'authentique culture tibétaine, recherche de la montagne intègre. C'est ainsi que c'est traduit en tout cas en français. C'est quoi pour vous une montagne intègre?
Quelque chose de différent de la montagne où je vis. Je vis sur les Alpes italiennes, qui sont pas trop différentes des Alpes françaises.
Dans le Val d'Aoste.
Oui, dans le Val d'Aoste. Et on a le sentiment d'être quelquefois dans un cimetière, parce qu'on est dans les ruines d'une ancienne civilité qui n'existe plus. Et parce que aujourd'hui en montagne, on est citadin qui vit en montagne. Et pour cela, je cherchais des vrais montagnards. Et ça signifie pour moi des gens qui vivent un rapport très, une connexion très forte avec le territoire, qui vit des sans montagnes, qui n'a pas de rapport avec la ville ou un'altra civiltà. Et je ne savais pas si existait encore. Je suis allé la chercher au Népal.
Et donc dans cette région du Dolpo, hein, une région très peu peuplée du nord-ouest effectivement du Népal. Et ce voyage dans l'Himalaya, c'est une vraie expédition, hein, Paolo Cognetti. Il y a des porteurs, il y a des mulets, il y a un guide qui chaque jour doit choisir l'endroit où il faut établir le campement. En général d'ailleurs à côté d'un torrent, un campement qu'il faudra démonter d'ailleurs le matin et recommencer ainsi de suite. C'est donc une véritable caravane ainsi qui se met en marche à travers le livre. Et avec vous, il y a des gens que vous allez apprendre à connaître et des gens que vous connaissez déjà très bien, comme vos amis Nicolas et Rémi Gio. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et pourtant, vous écrivez « En montagne, on marche seul, même quand on marche avec quelqu'un ».
Oui, parce que le rapport avec la fatigue, et dans mon cas, avec les mal de montagne que je souffre, c'est très solitaire. Tu peux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Et j'avais besoin d'une caravane, d'une spédition, parce que les paysages du Dolpo, c'est, même s'il est au Népal, il est le paysage du plateau tibétain. On est toujours sur les 4000 mètres, on traverse des pas de 5000. C'est un désert d'autres montagnes, tout est vraiment difficile. Et j'ai adoré ces porteurs népalaises. Ils sont très forts, ils font tout ce qui sert pour nous. On ne saurait pas traverser ce monde sans eux.
Donc il y a les porteurs, il y a les mulets, il y a vos amis, il y a vous, et puis il y a aussi un autre compagnon très important, car sans lui vous auriez peut-être pas fait ce voyage-là, c'est un livre. C'est le Léopard des Neiges de l'écrivain américain Peter Matthiessen. En fait, c'est lui le véritable guide de votre voyage, Paolo Cognetti.
Oui, oui. Le livre fait partie d'une génération de livres, je crois. À la fin des années 70, je rappelle les livres de Chatwin, les livres de Matthiessen. C'était un âge dans lequel on croyait au voyage comme une expérience spirituelle de recherche. Maintenant, il y a encore des livres de voyage, mais on parle toujours des voyages comme des explorations, sont anthropologiques ou géographiques. On parle plus du voyage comme une recherche intérieure. Et je suis très... Pour moi, c'est encore comme ça. Et Matthiessen était parti pour le Dolpo en 1973. Il avait un peu plus de 40 ans comme moi. Et il avait cherché pour toute sa vie à travers la littérature, à travers la politique, à travers l'écologie, à travers les drogues aussi. Il était un vrai chercheur qui, à 40 ans, avait pensé de chercher à travers le bouddhisme et ses voyages au Népal.
Nous sommes page 140 de votre livre.
Marcher était notre mission quotidienne, notre mesure du temps et de l'espace. C'était notre façon de penser, d'être ensemble, de traverser le jour. C'était le travail que nos corps faisaient maintenant sans nous. Même amaigris, fourbus, fiévreux, chaque matin, ils se relevaient et se remettaient en mouvement, dociles comme des bêtes de somme. Marcher réduisait la vie à l'essentiel, manger, dormir, rencontrer, penser. Aucune invention de notre siècle ne nous servait plus à rien une fois que nous étions en route, mis à part une bonne paire de chaussures et, dans mon cas, un livre dans le sac. Depuis des semaines, je vivais de riz, de lentilles, de légumes, parfois d'œufs et de fromage, de mon léopard, de mon carnet, de mes amis. Le plus surprenant n'était pas tant de pouvoir faire avec si peu, mais de constater que je ne désirais rien de plus. Ce n'est que quand nous nous arrêtions que s'immisçait le besoin, la nostalgie, les ambitions, tous les vides à remplir.
On a l'impression, Paolo Cognetti, en lisant ces quelques lignes de votre livre, que le chemin de l'Himalaya, c'est réellement un chemin spirituel. Comme si marcher, même s'il ne s'agit pas d'atteindre les sommets, marcher, c'est toujours une façon de s'élever.
Oui, et je pensais au signifié de le mot pèlerinage. Pèlerinage, en chaque religion, en chaque culture, est un chemin de purification. Tu marches pour te purifier. Et c'est pas important où tu arrives, c'est pas important les sommets de la montagne, c'est pas de l'alpinisme. L'alpinisme, même aujourd'hui, c'est toujours une façon de conquête. C'est toujours la conquête de quelque chose, de la montagne.
Ça vous intéresse pas?
Non, ça m'intéresse pas parce que il me semble très, très... Je suis très fatigué de notre âge, de notre mentalité occidentale, où on doit toujours conquérir quelque chose. On a toujours des ennemis, des adversaires. Je voudrais trouver une façon plus harmonieuse de vivre sur cette terre.
À Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageur avec l'écrivain italien Paolo Cognetti. Alors on dit toujours justement que l'Himalaya c'est le toit du monde, on le disait il y a un instant, et vous n'êtes pas du tout vous dans la recherche de la performance ni même d'ailleurs du dépassement de soi, hein. C'est ce que laisse entendre d'ailleurs le titre de votre livre, Sans jamais atteindre le sommet, paru, je le rappelle, en France aux éditions Stock. La montagne, il y a effectivement ceux qui cherchent à la conquérir, il y a ceux qui y habitent, c'est donc votre cas, Paolo Cognetti, dans les Alpes, vous faites clairement partie de la deuxième catégorie. Pourquoi avez-vous décidé, vous qui êtes né à Milan, d'être devenu ce montagnard d'adoption?
Je suis un demi-montagnard, je ne sais pas si je pourrais jamais le devenir entièrement, parce que si tu es né en ville, à Milan, tu es toujours, tu es jamais vraiment, vraiment à ton âge, en montagne. Et j'ai décidé d'y aller parce que j'avais de très beaux souvenirs de mon enfance, c'était des souvenirs heureux. Quand j'étais un enfant, je vivais à Milan toute l'année, je me sentais un prisonnier de l'appartement, de la vie en ville. Et pendant l'été, avec mes parents, on allait en montagne, en Valle d'Aoste, et je devenais libre et sauvage, comme un enfant sauvage. Et à 30 ans, quand j'étais vraiment en crise avec ma vie en ville, j'ai commencé à penser que peut-être qu'en montagne, je pourrais recommencer. À travers cette liberté que je me rappelais. Et depuis 10 ans maintenant, je passe là-haut 6 mois chaque année. J'ai une petite maison, une petite baïta. Je suis en train de construire aussi un refuge alpin. Et maintenant, j'ai fait aussi un festival culturel en montagne. C'est pas un retir, c'est pas une façon de se retirer de la civilité pour moi. C'est plus une façon de recommencer aussi ton activité social, politique, culturel. Aussi, la montagne a beaucoup besoin de tout ça.
Et votre écriture, Paolo Cognetti, elle a aussi quelque chose de montagnard. Elle est simple, elle est sobre, elle est franche, elle est directe, elle est sans tricherie, elle est sans afféterie, elle est presque brute. Est-ce que, quand vous écrivez, vous avez comme idée de parvenir à une forme de pureté? Est-ce que vous écrivez autant à la gomme qu'au crayon, si j'ose dire?
C'est vraiment comme ça. Et je crois qu'il y a des écrivains de la clarté, de la pureté. Je pense toujours à Hemingway. Et des écrivains de l'abondance.
De la flamboyance, oui.
Oui. Et je suis entre les premiers, parmi les premiers. Pour moi, l'écriture, c'est toujours commencé avec une forme très compliquée et confuse, et puis en travaillant, la rendre claire.
Mais vous êtes aussi un homme d'image, Paolo Cognetti. Vous avez fait une école de cinéma. C'est là que vous avez appris à regarder?
Oui, le cinéma, c'est une très bonne école pour raconter à travers ce qu'on voit, qui était aussi l'école de Hemingway ou l'école de Flaubert, des écrivains très... Qui écrivait avec les yeux. Et on écrit ce qu'on voit, ce qu'on sent, on écrit avec les mains, avec les oreilles, avec les sons. Et je crois en cette forme d'écriture.
Oui, et c'est vrai que quand on feuillette le livre et quand on s'y arrête, il y a non seulement les mots, mais il y a aussi des dessins, puisqu'il y a le carnet, les crayons que vous emportez avec vous pendant votre voyage. Le dessin, c'est l'étape intermédiaire entre ce que vous vivez et le livre?
Non, c'est une envie. Je voudrais toujours trouver une forme plus simple de l'écriture pour raconter ma vie et ce que je vois. Et quelquefois, je pense que la photographie, les dessins, c'est une forme plus directe. Mais peut-être c'est seulement une illusion parce que je suis un écrivain et si vous parlez avec un photographe, il dirait le contraire.
Merci beaucoup, Paolo Cognetti. Sans jamais atteindre le sommet, sous-titre Voyage dans l'Himalaya, chez Stock, dans la collection La Cosmopolite. Une pause et c'est l'heure du journal sur RFI. On se retrouve demain à Paris, cette fois avec une émission autour du football féminin. Tout à fait autre chose, à l'occasion du mondial qui se déroule évidemment en France. Avec nous, le metteur en scène Michael Filippo et l'ancienne joueuse et désormais écrivaine Mélissa Plaza. Et vous m'en direz des nouvelles.